Ce qu'on regarde dans l'oligarchie comme le plus grand bien, ce qui même donne naissance à cette forme de gouvernement, ce sont les richesses excessives des particuliers, n'est-ce pas?
Oui, Socrate.
Et ce qui cause sa ruine, c'est le désir insatiable de ses richesses et l'indifférence que la passion de s'enrichir inspire pour tout le reste.
Cela est encore vrai.
Maintenant, ce qui fait la ruine de l'État démocratique, n'est-ce pas aussi le désir insatiable de ce qu'il regarde comme son bien suprême?
Quel bien?
La liberté. En effet, dans un État démocratique, vous entendrez dire de toutes parts que la liberté est le plus précieux des biens, et que pour cette raison, quiconque est né de conditions libres ne saurait vivre convenablement dans un autre État.
Oui, rien n'est plus ordinaire qu'un pareil langage.
Or, et c'est où je voulais en venir, l'amour de la liberté porté à l'excès et accompagné d'une indifférence extrême pour tout le reste, ne change-t-il pas enfin ce gouvernement et ne rend-il pas la tyrannie nécessaire?
Comment donc?
Lorsqu'un État démocratique, dévoré de la soif de la liberté, trouve à sa tête de mauvais échansons qui lui versent la liberté toute pure, outre mesure et jusqu'à l'enivrer, alors, si ceux qui gouvernent ne sont pas tout à fait complaisants et ne donnent pas au peuple de la liberté tant qu'il en veut, celui-ci les accuse et les châtie comme des traîtres et des partisans de l'oligarchie.
Oui, certes, Socrate.
Ceux qui sont encore dociles à la voix des magistrats, ils les outragent et les traitent d'hommes serviles et sans caractère. Ils louent et honorent en particulier et en public les gouvernants qui ont l'air de gouverner et les gouvernés qui prennent l'air de gouvernant.
N'est-il pas inévitable que dans un pareil état, l'esprit de liberté s'étende à tout?
Comment cela ne serait-il pas? Qu'il pénètre, mon cher ami, dans l'intérieur des familles, et qu'à la fin, la contagion de l'anarchie gagne jusqu'aux animaux?
Qu'entends-tu par là?
Je veux dire que le père s'accoutume à traiter son enfant comme son égal, à le craindre même, que celui-ci s'égale à son père, et n'a ni respect ni crainte pour les auteurs de ses jours, parce qu'autrement sa liberté en souffrirait, que les citoyens et les simples habitants, et les étrangers même, aspirent aux mêmes droits.
C'est bien là ce qui arrive.
Oui, et il arrive aussi d'autres misères telles que celle-ci. Sous un pareil gouvernement, le maître craint et ménage ses disciples. Ceux-ci se moquent de leurs maîtres et de leurs surveillants. En général, les jeunes gens veulent aller de pair avec les vieillards et lutter avec eux en propos et en action. Les vieillards, de leur côté, descendent aux manières des jeunes gens, en affectent le ton léger et l'esprit badin, et imitent la jeunesse, de peur d'avoir l'air fâcheux et despotique.
Tout à fait.
Mais le dernier excès de la liberté dans un État populaire, c'est quand les esclaves de l'un et de l'autre sexe ne sont pas moins libres que ceux qui les ont achetés. Et nous allions presque oublier de dire jusqu'où vont l'égalité et la liberté dans les rapports des femmes et des hommes.
Et pourquoi donc ne dirions-nous pas, selon l'expression d'Eschyle, tout ce qui nous vient maintenant à la bouche?
Sans doute, et c'est aussi ce que je fais. Il n'est pas jusqu'aux animaux, à l'usage des hommes, qui en vérité ne soient là plus libres que partout ailleurs. C'est à ne pas le croire, si on ne l'a pas vu. Des petites chiennes y sont tout comme leurs maîtresses, suivant le proverbe. Les chevaux et les ânes, accoutumés à une allure fière et libre, s'en vont heurter ceux qu'ils rencontrent, si on ne leur cède le passage. Et ainsi du reste,
tout y respire la liberté.
Socrate, tu me racontes mon propre songe. Je ne vais jamais à la campagne, que cela ne m'arrive.
Or, vois-tu le résultat de tout ceci? Combien les citoyens en deviennent ombrageux, au point de s'indigner et de se soulever à la moindre apparence de contrainte. Ils en viennent à la fin, comme tu sais, jusqu'à ne tenir aucun compte des lois écrites ou non écrites, afin de n'avoir absolument aucun maître.
Je le sais parfaitement. Eh bien, mon cher ami, c'est de ce jeune et beau gouvernement que naît la tyrannie. Du moins, à ce que je pense.
Bien jeune, en effet, mais qu'arrive-t-il ensuite?
Le même fléau qui a perdu l'oligarchie, prenant de nouvelles forces et de nouveaux accroissements à la faveur de la licence universelle, prépare l'esclavage à l'État démocratique. Car tout excès amène volontiers l'excès contraire dans les saisons, dans les végétaux, dans nos corps et dans les États tout comme ailleurs.
Cela doit être.
Ainsi, dans un État comme dans un individu, ce qui doit succéder à l'excès de la liberté, c'est précisément l'excès de la servitude.
Cela doit être encore.
Par conséquent, ce qui doit être, c'est que la tyrannie ne prenne naissance d'aucun autre gouvernement que du gouvernement populaire. C'est-à-dire qu'à la liberté la plus illimitée succède le despotisme le plus entier et le plus intolérable.
Tel est l'ordre des choses, Socrate.
Mais ce n'est pas là ce que tu demandes. Tu veux savoir quel est ce même fléau qui, s'attachant à la démocratie comme à l'oligarchie, conduit celle-là à la tyrannie.
Oui, tu as raison.
Par ce fléau, j'entends cette foule de gens oisifs et prodigues, les uns plus courageux qui sont à la tête, les autres plus lâches qui vont à la suite. Nous les avons comparés les premiers à des frelons armés d'aiguillons, les seconds à des frelons sans aiguillons.
Oui, et très justement.
Ces deux espèces d'hommes portent dans tout corps, politique, le même désordre que le flegme et la bile dans le corps humain. Le législateur, en habile médecin de l'État, devra prendre par avance à leur égard les mêmes précautions que le sage cultivateur d'abeilles prend à l'égard des frelons. Son premier soin sera d'empêcher qu'ils ne s'introduisent dans la ruche, et s'ils y pénètrent, il les détruira au plus tôt avec les alvéoles qu'ils ont infestées.
Oui, il n'y a pas d'autre parti à prendre.
Pour concevoir plus clairement ce que nous voulons dire, suivons ce procédé.
Lequel, Socrate?
Divisons par la pensée l'État populaire en trois classes, dont en effet il est composé. La première est cette engeance qui, grâce à la licence publique, ne foisonne pas moins dans la démocratie que dans l'oligarchie.
D'accord.
Seulement, elle y est beaucoup plus malfaisante.
Pour quelle raison?
C'est que dans l'autre État, comme ces gens n'ont aucun crédit, et qu'on a soin de les écarter de toutes les charges, ils restent sans action et sans force. Au lieu que dans la démocratie, ce sont eux presque exclusivement qui sont à la tête des affaires. Les plus ardents parlent et agissent. Les autres, assis autour de la tribune, bourdonnent et ferment la bouche à quiconque veut parler en sens contraire, de sorte que dans ce gouvernement, toutes les affaires passent par leurs mains, à l'exception d'un très petit nombre.
Cela est vrai.
Il y a encore une autre classe qui est distincte de la multitude.
Quelle est-elle?
Là où tout le monde travaille à s'enrichir, ceux qui sont les plus sages dans leur conduite sont aussi, pour l'ordinaire, les plus riches.
Oui, cela doit être.
C'est de là, j'imagine, que les frelons tirent le plus de miel et le plus facilement.
Sans doute.
Quel butin pourrait-on faire sur ceux qui ne possèdent que peu de choses? Aussi donne-t-on aux riches le nom d'herbe au frelon. Ordinairement. La troisième classe, c'est le menu peuple. Tous ceux qui, travaillant de leurs bras, sont étrangers aux affaires et ne possèdent presque rien. Dans la démocratie, cette classe est la plus nombreuse et la plus puissante lorsqu'elle se rassemble.
Oui, mais elle ne se rassemble guère, s'il ne doit pas lui revenir pour sa part quelque peu de miel.
Et il lui en revient toutes les fois que les chefs trouvent moyen de s'emparer des biens des riches pour les distribuer au peuple, en gardant la meilleure part pour eux-mêmes. Oui, c'est ainsi qu'il lui revient quelque chose. Cependant, les riches qu'on dépouille sont bien obligés de se défendre. Ils s'adressent au peuple et emploient tous les moyens pour se tirer d'embarras. Sans contredit, les autres, de leur côté, les accusent, n'eussent-ils jamais songé à la moindre innovation, de conspirer contre le peuple et de vouloir l'oligarchie.
Il n'y manque pas, oui.
Mais à la fin, lorsque ceux-ci voient le peuple, moins par mauvaise volonté que par ignorance, et séduits par les artifices de leurs calomniateurs, disposés à leur faire injustice, alors, bon gré mal gré, ils deviennent en effet oligarchiques. Ce n'est point leur faute, mais celle de ce frelon qui, les piquant de son aiguillon, les pousse à cette extrémité. Assurément. Alors viennent les poursuites, les procès, les luttes des partis.
Oui, Socrate.
Maintenant, n'est-il pas ordinaire au peuple d'avoir quelqu'un à qui il confie particulièrement ses intérêts et qu'il travaille à agrandir et à rendre puissant?
Oui.
Il est évident que c'est de la tige de ces protecteurs du peuple que naît le tyran, et non d'ailleurs.